Fastoche, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des insomnies? Pas à cause d'une maladie, hein, mais parce que les problèmes sont suffisamment importants pour qu'ils vous tiennent réveillés durant des heures. Nous, la semaine dernière, l'orage Cévenol a démontré des fuites importantes dans notre toiture. Une toiture qui se révèle avoir 60 ans. Et quand d'une part la météo vous annonce de nouveaux orages et puis que vous vous dites le faux plafond qui est au-dessus de moi en placoplâtre est déjà gorgé d'eau, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais le prendre sur la tête en pleine nuit? Et que vous avez 4 devis qui vont de 12 000 à 40 000 euros pour changer vos tuiles. Ah, le verset. Pas facile, hein. On tourne, on retourne tous les scénarios possibles, on combine, on calcule, jusqu'à en avoir mal à la tête. C'est vrai que les nuits sont parfois angoissantes, mais le silence est propice aussi à la réflexion, au face-à-face avec nous-mêmes. C'est vrai que dans la journée, on est pris dans un tourbillon d'activités, mais la nuit, il n'y a plus que nous, solitaires. L'homme avec lequel nous allons faire un bout de chemin ce matin est seul. Il est en train de vivre la nuit la plus longue de sa vie. Après 20 ans d'absence, il a décidé de rentrer chez lui, dans la maison de son père. Mais il vient d'apprendre que son pire ennemi vient à sa rencontre avec 400 soldats. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Jacob. Jacob. On peut se dire, oh Jacob, vieille histoire, rien ne nous apprend. Au contraire, une aide précieuse pour nous apprendre à faire des bilans. Et donc ce matin, je vous propose à travers cette histoire de Jacob de voir 4 points. Alors on va voir si ça marche, sinon ça marche. Jacob, une défaite morale, une défaite physique, une défaite spirituelle pour une victoire surprenante. Jacob, c'est d'abord une défaite morale. Jacob face à lui-même. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Genèse 32. Mais je pose d'abord le contexte. Le contexte, il est au verset 8. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Un Jacob qui a peur. Un Jacob plein d'angoisse. Un Jacob qui lui aussi tourne et retourne tous les scénarios possibles dans sa tête. Et si les cadeaux que j'envoie à mon frère Ésaü n'inclinaient pas son cœur en ma faveur? Pourtant, 600 têtes de bétail, c'est quand même pas rien. Et si Ésaü attaquait quand même? 400 soldats, c'est beaucoup. Et est-ce que j'ai bien fait de séparer mon camp en deux? Et est-ce que c'était une bonne idée de faire passer ma femme et les enfants, leur faire traverser le torrent avant sans moi? Et si, et si, et si? Et surtout, et si le Dieu de mes pères ne venait pas à mon secours, ne venait pas mettre ses promesses en action à mon égard? Pourtant, ce Dieu, c'est lui qui m'a dit de rentrer au pays. Et moi, Jacob, j'étais d'accord. J'étais content de quitter cette situation chez mon beau-père, Laban. Et puis, j'ai monté tout un plan, j'ai tout combiné pour pouvoir obéir. Et puis je me rappelle que j'ai promis à Dieu 20 ans plus tôt, textuellement, Genèse 28-21, « Si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu » ou « L'Éternel deviendra mon Dieu ». Or, les apparences montrent que je rentre en guerre et pas en paix. Mais alors, l'Éternel, première application pour nous que je vous propose ce matin, je crois que ça nous arrive à chacun, cette situation où après une étape, vouloir aller de l'avant, discerner dans des portes qui s'ouvrent la volonté de Dieu, et puis quand même lui donner un petit coup de pouce pour que tout s'organise au mieux. Calculer comment je peux préserver les acquis tout en bénéficiant des bénédictions liées à mon obéissance d'une marche en avant. Aide-toi, le ciel t'aidera. Dans mon premier poste pastoral, j'avais une mamie, donc c'était le leitmotiv. Un verset dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Et en 2 ans, je n'ai jamais réussi, ni moi ni mon épouse, à la convaincre que ce n'était pas un verset biblique et qu'il n'est dans aucune Bible. Aide-toi, le ciel t'aidera. Peut-être cela veut-il dire obéir sans renoncement. Et puis tout à coup, l'épreuve, le grain de sable qui vient enrayer la belle machinerie que j'ai mise en place. Et puis perdu, désorienté, déboussolé, angoissé, nous crions à Dieu. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans ton plan ou je n'y suis pas? Tu es mon Dieu ou tu n'es pas mon Dieu? Pas une perte d'assurance, bien sûr, ça on est clair sur ce sujet. Notre billet pour le ciel, on l'a dans la poche, là. Mais le ciel, c'est loin. Mais dans mon problème au quotidien, Dieu, tu es là. Ou tu n'y es pas. Tu es mon Dieu ou tu n'es pas mon Dieu. Moi, je veux bien entrer dans ton plan, mais toi, Dieu, t'as pas vraiment l'air d'entrer dans le mien. Et on sait que plus tard, après la sortie d'Égypte, il est dit du peuple de Dieu, donc du peuple des rachetés par le sang de l'agneau, Exode. Les enfants d'Israël avaient contesté, ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Exode 17. Et comme application, je propose, mais est-ce que nous ne tentons pas parfois l'Éternel par cette même question ? Donc vous voyez que c'est une question actuelle que tous les croyants se posent à certains moments. Et donc la suite de l'histoire de Jacob nous concerne aussi. Deuxième défaite, une défaite physique. Lisons Genèse 32, maintenant que vous avez le contexte, à partir du verset 24. Donc c'est la nuit qui précède l'affrontement éventuel de Jacob, ou en tout cas la rencontre de Jacob avec son frère et ses 400 soldats. Jacob, verset 24, chapitre 32, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Toute la nuit jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de l'ange, et l'emboîture de l'ange de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller », c'est donc l'homme qui parle, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il dit « Quel est ton nom ?» Et il répondit « Jacob ». Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Il vient de se faire déboîter la hanche. Et on lui dit « Et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom ?» Et il répondit, « Mais pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. Pour Jacob, cette nuit, on vient de le voir, c'est la nuit de toutes les angoisses. Et comme si ça ne suffisait pas, voilà qu'un homme se dresse devant lui pour se battre avec lui. Je pense que Jacob désirait sûrement un allié dans cette situation, pas un ennemi supplémentaire. Seigneur, tu vois dans quelle impasse je suis, j'attends ton aide, et toi tu laisses encore un adversaire supplémentaire me tomber dessus. Abandon ? Non, parce que Jacob est comme nous, il possède des ressources physiques et de volonté insoupçonnées. Celui-là qui est en face de moi, il va servir de défouloir à ma hargne, à mon amertume, à mon incompréhension. Donc Jacob ne comprend pas, mais il jette toutes ses forces dans la bataille et il résiste toute la nuit. Mais à qui résiste-t-il ? Verset 30, j'ai vu Dieu face à face. Et je vous propose comme application, bien, de même que Jacob lutte contre un homme qu'il ne connaît pas et qu'il va mettre toute la nuit pour discerner cet homme, derrière cet homme, l'homme avec un grand H, Christ, l'homme-Dieu, l'homme incarné, le Dieu incarné, pardon. Est-ce que des fois, derrière nos tensions relationnelles, vous savez, frère Clou, il y a des frères Clou ici, non ? Non, pas dans cette église. Les sœurs Marteau ? Non, tant mieux. Vous savez, derrière ces tensions et les résistances qu'elles provoquent en nous, est-ce qu'il ne nous faut pas apprendre à discerner parfois la main éducatrice de Dieu ? Méditons cette remarque que Jésus a faite à Pierre le fougueux. « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Jean 13, 7. Donc, quand nous résistons à ceux qui s'opposent à nous, est-ce que parfois, ce ne serait pas la main de Dieu ? Et combien de temps vais-je mettre pour m'en apercevoir ? Mais on voit au verset 25 que Jacob n'a pas le dernier mot. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. En touchant cette hanche, son adversaire va foudroyer Jacob qui devrait normalement s'effondrer par terre. Mais non, on voit que Jacob s'accroche puisque cet homme qui se bat avec lui, lui dit « Laisse-moi partir » au verset 27. Donc, ça montre que l'agresseur est tenu par Jacob. Donc, j'imagine qu'au moment où la hanche se déboîte, ben Jacob, il, plutôt que de tomber, il s'accroche, hein, comme on s'accroche en rugby, il s'accroche à ce gars qui est en face de lui et il le serre pour essayer de ne pas s'effondrer complètement. Vaincu moralement et physiquement, Jacob n'a d'autre ressource que de s'accrocher à cet homme qui le tient à sa merci. Je reprends les versets 26 à 28. Jacob lui dit, « Je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Je trouve que cette belle image de Jacob vaincu, qui s'accroche, qui enlace son adversaire pour ne pas tomber plus bas, puis ce changement de nom, cela nous autorise à interpréter ce combat sur un plan spirituel. Sinon, le changement de nom n'aurait rien à faire ici. Et donc, après la défaite physique, morale et la défaite physique, la défaite... Il se remet. Il doit s'y remettre. Voilà. La défaite physique la défaite spirituelle. Est-ce que c'est le coup à la jointure de la hanche qui a permis à Jacob de deviner le nom de son vainqueur? Je ne sais pas. Si oui, alors nous avons là un magnifique parallèle avec la définition de la parole de Dieu. Hébreux 4:12, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et dans Daniel, chapitre 5, verset 6, on a la même scène. Le roi Belshazzar, confronté à la parole de Dieu, écrite avec le doigt de Dieu, à la jointure, les jointures des os, du dos et des genoux qui craquent. Mes amis, quand nous sommes ainsi arrêtés, transpercés, sondés dans les coins les plus résistants de notre être, une certitude s'impose comme à Jacob. Nous sommes en présence de Dieu lui-même, de sa parole incarnée, et c'est lui et personne d'autre qui vient de nous faire plier le genou. Alors, si vous trouvez que je vais trop loin dans l'image, posez-vous la question suivante. Est-ce que dans ma vie, les symptômes de la lutte et d'une résistance spirituelle ne provoquent pas aussi des conséquences physiques, parfois? Nervosité, épuisement, ulcère, dépression. Et si vous pensez à notre Seigneur Jésus-Christ, la nuit de son grand et bon combat spirituel, avant la croix, à Gethsémané, est-ce que son angoisse ne s'est pas manifestée par des grumeaux de sang? Donc le rapport entre le spirituel, le psychologique et le physique est une réalité. Et face à cet état de Jacob, l'envoyé de l'Éternel peut apporter la dernière question, celle dont la réponse va enfin permettre la délivrance. Qui es-tu? Oh, je suis monsieur et madame machin. Non. Qui es-tu? Pas quel est ton métier, pas combien tu as d'enfants, pas où tu habites. Qui es-tu? Et la réponse, c'est « Je suis Jacob, trompeur. Je suis le trompeur. Voilà ce que veut dire mon nom. » Une lecture rapide, on lit Jacob et puis on continue. Non, non, non. Les noms, surtout dans l'Ancien Testament, sont tous très importants. Jacob est en train de dire « Je suis le trompeur. » C'est-à-dire, j'avoue, je mène une double vie. Je mène une double vie, celle du croyant, objet des promesses divines, et puis en même temps celle du vieil homme rusé et trompeur. L'exemple, hein, il était chez Laban, bon, certes Laban l'arnaquait en permanence, mais ok, je rentre dans le plan de Dieu, je m'en vais. Mais avant, je fais tout un tas de magouilles, vous savez, avec les branches pelées, pas pelées, pour récupérer un maximum de bétail. Le croyant objet des promesses divines d'un côté, le vieil homme rusé et trompeur de l'autre. Comme ça, j'ai la satisfaction des deux côtés. Une vie de foi sans sacrifice. Et enfin, cet aveu, qu'on appelle la repentance, c'est lorsque le péché est nommé péché. Je m'appelle le trompeur. Jusqu'à présent, le texte biblique, si vous avez sûrement déjà lu le récit de Jacob avant, le texte biblique nous a présenté l'histoire de Jacob avec son père, avec son frère, avec Laban, avec ses femmes. Il nous a raconté ses actes, mais sans les identifier. Mais là, devant Dieu, ayant perdu tout espoir de défendre sa cause, on pourrait dire pour nous sa conception de la marche chrétienne, Jacob nomme péché ce qui s'appelle péché. Je m'appelle le trompeur. Il est trompeur parce qu'il a trompé Ésaü pour avoir le droit d'aînesse. Il a trompé son père Isaac pour avoir la bénédiction. Il a trompé Laban avec l'histoire des troupeaux. Laban qui lui-même le trompait. Mais comme le dit si joliment le psaume 81, ça y est, ses mains ont lâché la corbeille. Enfin libre, ses mains ont pu saisir et s'appuyer sur l'envoyé de Dieu. Saisir le Seigneur dont le nom est précisé dans le livre des juges, puisque là il ne le donne pas. Il est merveilleux. Mes amis, quand on lâche nos résistances, c'est là que nos mains sont libres pour saisir le Christ. Devant un texte aussi précis, y a-t-il besoin de formuler une quatrième application? Qui a une vie chrétienne totalement limpide dans cette salle? Est-ce que nous n'avons pas tous une parcelle de double personnalité, en tout cas par moment? Celle du croyant, objet des promesses divines, et puis celle de notre vieil homme qui revendique de conserver la gestion de certains secteurs, bien que cette revendication-là s'appelle péché. Notre cœur, c'est un peu comme cet appartement, dont Dieu est le propriétaire, et qu'il vient visiter. Il vient faire l'état des lieux pour s'installer chez lui. Alors peut-être y a-t-il même, je ne connais pas tout le monde, peut-être y a-t-il même dans la salle quelqu'un dont le cœur n'appartient même pas encore à Dieu. Dans ce cas-là, relisez cette histoire de Jacob parce que ce texte est d'abord écrit pour vous. Parce que c'est le principe même de l'autogestion de votre vie dans l'indépendance de Dieu qu'il vous faut lâcher. Pour pouvoir vous jeter dans les bras du Seigneur et pour pouvoir vivre la victoire qui va suivre. C'est faire cet aveu. Je suis fondamentalement trompeur. Et puis pour les chrétiens de fraîche date, ah ben oui Seigneur, tu es le bienvenu, entre. Mais reste là debout dans le vestibule, parce que la salle à manger, elle n'est pas en état, la cuisine non plus. Donc surtout, reste là dans l'entrée et ne bouge pas. Et puis, pour les chrétiens plus mûrs, nous allons dire, bien sûr Seigneur, tu peux tout visiter. Voilà, deux pièces, voire trois pièces, voire quatre pièces, toutes peut-être. Ouh là là, mais ce tiroir de la commode, ah non, non, là, faut pas... Je comprends, je n'ai pas encore fait le ménage là-dedans. Et puis alors la corbeille à la châle, non, non, Seigneur, ne va pas y mettre ton nez. C'est vraiment pas le moment. Puis je n'ai pas le temps, puis je suis fatigué. Puis on verra ça un autre jour, Seigneur. Mes amis, Dieu ne viole ni notre conscience, ni notre liberté. Mais il ne peut pas faire un pas de plus avec nous tant que nous ne nommons pas les choses par leur nom et que nous ne nommons pas d'abord péché ce que Dieu appelle péché. Parce que avant de se battre pour nous, Dieu doit souvent d'abord se battre contre nous, comme avec Jacob. Alors, il n'est pas question ici pour moi de dresser votre liste, parce que je ne la connais pas. Quel tiroir de commode vous ne voulez pas que Dieu visite? Chacun connaît très bien la sienne. Est-ce que je me permettrais de citer un exemple terre à terre? Si Dieu nomme refus d'aimer le fait que je ne salue pas tel frère ou telle sœur, tandis que moi j'appelle juste ça absence d'atome crochu. On n'a pas le même caractère. Voilà. Eh bien Dieu me barrera la route. Et je n'aurai pas le dessus dans le niveau relationnel tant que je n'aurai pas accepté d'utiliser le vocabulaire de Dieu au lieu d'utiliser le mien. Mais enfin, quand nous capitulons, quand la défaite est consommée, la victoire est là aussi. Et après les défaites morales, physiques et spirituelles, nous pouvons voir une victoire surprenante. Bon, on va passer à la suivante. Verset 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Verset 30, Jacob appela ce nom, ce lieu du nom de Peniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Peniel, Jacob boitait de la hanche. Tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été sauvé. Mes amis, merveilleux message de l'Évangile. Quand Dieu a la victoire sur un point de nos vies, nous sommes vainqueurs. Co-héritiers de Christ, il nous fait partager ses victoires. En quelque sorte, nous sommes les premiers bénéficiaires de nos défaites. Ah, ce n'est pas notre vocabulaire, c'est celui de Dieu. Il n'y a qu'un seul vaincu, c'est notre vieil homme ou notre vieille femme. Et il y a deux vainqueurs, Christ, toujours, et le croyant, le nouvel Israël. Parce qu'Israël, ça veut dire Dieu lutte. Et même Dieu sans poussière avec. On imagine ces deux gars qui se sont battus toute la nuit, ils ont dû rouler par terre, la poussière, ils ont dû en faire. Hein. Et puis sans poussière avec, Dieu qui sans poussière. Est-ce que ce n'est pas l'incarnation complète d'avec nous, hommes poussière, hommes nés de la poussière, jusqu'à la croix. Dieu sans poussière avec l'homme. Et donc, Ésaïe, l'ennemi qui vient à la rencontre, il ne va plus rencontrer Jacob le trompeur, il va rencontrer Israël. Dieu lutte avec. Dieu est désormais du côté de Jacob. Et donc, ça va forcément bien se passer. Je fais remarquer que ce n'est pas Jacob qui change son nom, c'est Dieu. Merveilleux équilibre de l'Évangile. Parce que si cet Évangile ne nous donnait que des ordres pour capituler, défaite morale, défaite physique, défaite spirituelle, on quitterait cette salle abattue, chargée d'une culpabilité écrasante, sans espoir. Mais au lieu de cela, il y a la victoire, la grâce. Et c'est un résumé de cet équilibre qui est aussi celui de l'Évangile. Jean présente Jésus-Christ comme venu en grâce et en vérité. Et un proverbe dit « Le péché sera expié par la grâce unie à la vérité. » Bon, ben, appuie sur la suivante. Voilà, la suivante. Là, le péché sera expié par la grâce unie à la vérité. La vérité qui combat notre résistance sur un point et qui nous met par terre, la suivante, et la grâce qui transforme cette défaite en victoire. D'où le secret de cette victoire que nous trouvons dans Osée, chapitre 12, verset 5, selon les versions. Jacob eut le dessus en pleurant et en demandant grâce. Jacob eut le dessus en pleurant et en demandant grâce. Mes amis, la vérité engendre jugement, pleurs, défaite. Mais la grâce omniprésente engendre la victoire et la joie sans cesse renouvelée de la certitude de notre salut éternel. Cette assurance est confirmée par le fait que Dieu nous fait désormais partager chacune de ses victoires. Nous sommes les premiers vainqueurs de nos défaites. Avant de pouvoir lutter avec nous, Israël, Dieu lutte avec, avant de pouvoir lutter avec nous, à nos côtés, Dieu doit parfois, sur un point ou l'autre, lutter contre. Et nous n'avons pas besoin de résister aussi longtemps que Jacob. Nous n'avons pas besoin de jouer à la chef de M. Seguin. Nous pouvons au contraire plus vite reconnaître pour plus vite être vainqueur. 2 Corinthiens 2,14 nous dit que nous partageons les victoires du Christ puisque nous participons au cortège triomphal du Christ. Jacob repart. Il a compris la leçon. Au verset 20-31, il nous est dit qu'il boitait de la hanche. Il est devenu boiteux, c'est-à-dire qu'il est devenu moins sûr de lui et plus sûr de Dieu. Je vous rappelle ce verset de Paul, « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » 2 Corinthiens 12-10. Et nous, sommes-nous prêts à apprendre les leçons? Prenons le temps, mes amis. Et osons les bilans et les confrontations avec Dieu. Dieu est-il avec nous dans tel ou tel projet ou dans telle combine? S'il y est, pourquoi je doute? Et pourquoi je lui fais des reproches? Deuxième question. Et si Dieu était à discerner derrière telle remarque, telle opposition de mes frères ou de mes sœurs, est-ce juste de résister? Troisième proposition. Quel problème spirituel a peut-être des symptômes physiques dans ma vie? Et enfin, dernière proposition, quel tiroir secret de ma vie le Seigneur me montre-t-il du doigt? Quelle pièce veut-il visiter? Ça fait combien de temps qu'il me le demande? Et pourquoi est-ce que jusqu'à présent j'ai refusé, j'ai biaisé, j'ai éludé? Pourtant, je connais le secret libérateur, avoir le dessus, en pleurant et en demandant grâce. Mes amis, devant tant d'amour et de persévérance de sa part, qu'est-ce que j'attends pour lâcher la corbeille de mes problèmes et de mes résistances et de m'accrocher à mon Seigneur pour savourer dans ses bras la victoire de la paix au-dessus? Voilà le bon chemin. Amen. Je vous propose un moment de réflexion silencieuse, puis nous partagerons la scène sans introduction, puisque nous avons là l'image même de la défaite, du renoncement transformé en victoire. C'est ce que nous rappelle la scène, le chemin que notre